Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau dans Lectures en liberté pour un dernier extrait du Lys dans la vallée de Balzac. Et nous allons démarrer par le récit de l'enterrement de Madame de Mortsauf. Quand elle eut cessé de parler, les prières commencèrent. Puis le curé de Saché lui donna le viatique. Quelques moments après, sa respiration s'embarrassa. Un nuage se répandit sur ses yeux qui bientôt se rouvrirent. Elle me lança un dernier regard et mourut aux yeux de tous, en entendant peut-être le concert de nos sanglots. Par un hasard assez naturel à la campagne, nous entendîmes alors le chant alternatif de deux rossignols, qui répétèrent plusieurs fois leur note unique, purement filée, comme un tendre appel. Au moment où son dernier soupir s'exhala, dernière souffrance d'une vie qui fut une longue souffrance, je sentis en moi-même un coup par lequel toutes mes facultés furent atteintes. Le comte et moi nous restâmes auprès du lit funèbre pendant toute la nuit avec les deux abbés et le curé, veillant à la lueur des cierges, la morte étendue sur le sommier de son lit, maintenant calme, là où elle avait tant souffert. Ce fut ma première communication avec la mort. Je demeurai pendant toute cette nuit les yeux attachés sur Henriette, fasciné par l'expression pure que donne l'apaisement de toutes les tempêtes, par la blancheur du visage que je douais encore de ses innombrables affections, mais qui ne répondait plus à mon amour. Quelle majesté dans ce silence et dans ce froid. Combien de réflexions n'exprime-t-il pas? Quelle beauté dans ce repos absolu, quel despotisme dans cette immobilité. Tout le passé s'y trouve encore, et l'avenir y commence. Ah, je l'aimais morte autant que je l'aimais vivante. Au matin, le comte s'alla coucher. Les trois prêtres fatigués s'endormirent à cette heure pesante, si connue de ceux qui veillent. Je pus alors, sans témoin, la baiser au front, avec tout l'amour qu'elle ne m'avait jamais permis d'exprimer. Le surlendemain, par une fraîche matinée d'automne, nous accompagnâmes la comtesse à sa dernière demeure. Elle était portée par le vieux piqueur, les deux Martineau et le mari de Manette. Nous descendîmes par le chemin que j'avais si joyeusement monté le jour où je la retrouvai. Nous traversâmes la vallée de l'Indre pour arriver au petit cimetière de Saché. Pauvre cimetière de village, situé au revers de l'église sur la croupe d'une colline, et où, par humilité chrétienne, elle voulut être enterrée avec une simple croix de bois noir, comme une pauvre femme des champs, avait-elle dit. Lorsque du milieu de la vallée j'aperçus l'église du bourg et la place du cimetière, je fus saisi d'un frisson convulsif. Hélas ! Nous avons tous dans la vie un Golgotha où nous laissons nos 33 premières années en recevant un coup de lance au cœur, en sentant sur notre tête la couronne d'épines qui remplace la couronne de roses. cette colline devait être pour moi le mont des expiations. Nous étions suivis d'une foule immense, accourue pour dire les regrets de cette vallée où elle avait enterré dans le silence une foule de belles actions. On sut par Manette, sa confidente, que pour secourir les pauvres, elle économisait sur sa toilette, quand ses épargnes ne suffisaient plus. C'étaient des enfants nus, habillés, des layettes envoyées, des mères secourues, des sacs de blé payés aux meuniers en hiver pour des vieillards impotents, une vache donnée à propos de quelques pauvres ménages. Enfin, les œuvres de la chrétienne, de la mère et de la châtelaine. Puis des dots offertes à propos pour unir les couples qui s'aimaient et des remplacements payés à des jeunes gens tombés au sort. Touchantes offrandes de la femme aimante qui disait « Le bonheur des autres est la consolation de ceux qui ne peuvent plus être heureux. » Ces choses comptées à toutes les veillées depuis 3 jours avaient rendu la foule immense. Je marchais avec Jacques et les 2 abbés derrière le cercueil. Suivant l'usage, ni Madeleine, ni le comte n'étaient avec nous. Il demeurait seul à Clochegourde. Manette voulut absolument venir. « Pauvre madame, pauvre madame !»« La voilà heureuse !» entendis-je à plusieurs reprises à travers ses sanglots. Au moment où le cortège quitta la chaussée des moulins, il y eut un gémissement unanime mêlé de pleurs qui semblait faire croire que cette vallée pleurait son âme. L'église était pleine de monde. Après le service, nous allâmes au cimetière où elle devait être enterrée près de la croix. Quand j'entendis rouler les cailloux et les graviers de la terre sur le cercueil, mon courage m'abandonna. Je chancelai, je priai les 2 Martineaux de me soutenir et ils me conduisirent mourant jusqu'au château de Saché. Les maîtres m'offrirent poliment un asile que j'acceptai. Je vous l'avoue, je ne voulus point retourner à Clochegourde. Il me répugnait de me retrouver à Frapelle, d'où je pouvais voir le castel d'Henriette. Là, j'étais près d'elle. Je demeurai quelques jours dans une chambre dont les fenêtres donnent sur ce vallon tranquille et solitaire dont je vous ai parlé. C'est un vaste pli de terrain bordé par des chênes 2 fois centenaires et où, par les grandes pluies, coule un torrent. Cet aspect convenait à la méditation sévère et solennelle à laquelle je voulais me livrer. J'avais reconnu pendant la journée qui suivit la fatale nuit combien ma présence allait être importune à Clochegourde. Le comte avait ressenti de violentes émotions à la mort d'Henriette, mais il s'attendait à ce terrible événement, et il n'y avait dans le fond de sa pensée un parti pris qui ressemblait à de l'indifférence. Je m'en étais aperçu plusieurs fois. Et quand la comtesse prosternée me remit cette lettre que je n'osais ouvrir, quand elle parla de son affection pour moi, cet homme ombrageux ne me jeta pas le foudroyant regard que j'attendais de lui. Les paroles d'Henriette, il les avait attribuées à l'excessive délicatesse de cette conscience qu'il savait si pure. Cette insensibilité égoïste était naturelle. Les âmes de ces 2 êtres ne s'étaient pas plus mariées que leur corps. Ils n'avaient jamais eu de constante communication qui ravive les sentiments. Ils n'avaient jamais échangé ni peine ni plaisir ces liens si forts qui nous brisent par 1000 points quand ils se rompent, parce qu'ils touchent à toutes nos fibres, parce qu'ils se sont attachés dans les replis de notre cœur, en même temps qu'ils ont caressé l'âme qui sanctionnait chacune de ces attaches. L'hostilité de Madeleine me fermait Clochegourde. Cette dure jeune fille n'était pas disposée à pactiser avec sa haine sur le cercueil de sa mère, et j'aurais été horriblement gêné entre le comte, qui m'aurait parlé de lui, et la maîtresse de maison, qui m'aurait marqué d'invincibles répugnances. Être ainsi, là, où jadis les fleurs mêmes étaient caressantes, où les marches des perrons étaient éloquentes, où tous mes souvenirs revêtaient de poésie les balcons, les margelles, les balustrades et les terrasses, les arbres et les points de vue, être haï là où tout m'aimait. Je ne supportais point cette pensée. Aussi, dès l'abord, mon parti fut-il pris. Hélas, tel était donc le dénouement du plus vif amour qui jamais ait atteint le cœur d'un homme. Aux yeux des étrangers, ma conduite allait être condamnable, mais elle avait la sanction de ma conscience. Voilà comment finissent les plus beaux sentiments et les plus grands drames de la jeunesse. Nous partons presque tous au matin, comme moi de Tours pour Clochegourde, nous emparant du monde, le cœur affamé d'amour. Puis, quand nos richesses ont passé par le creuset, quand nous nous sommes mêlés aux hommes et aux événements, tout se rapetisse insensiblement. Nous trouvons peu d'or parmi beaucoup de cendres. Voilà la vie. La vie telle qu'elle est. De grandes prétentions, de petite réalité. Je méditais longuement sur moi-même en me demandant ce que j'allais faire après un coup qui fauchait toutes mes fleurs. Je résolus de m'élancer vers la politique et la science, dans les sentiers tortueux de l'ambition, d'ôter la femme de ma vie et d'être un homme d'État, froid et sans passion, de demeurer fidèle à la sainte que j'avais aimée. Mes méditations allaient à perte de vue, pendant que mes yeux restaient attachés sur la magnifique tapisserie des chaînes dorées aux cimes sévères, aux pieds de bronze. Je me demandais si la vertu d'Henriette n'avait pas été de l'ignorance, si j'étais bien coupable de sa mort. Je me débattais au milieu de mes remords.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous voici donc à nouveau, après cette pause musicale, pour le dernier extrait du Lys dans la vallée de Balzac. Je suivis le plan que j'avais arrêté pendant ma retraite à Saché. Je me jetais dans le travail. Je m'occupais de sciences, de littérature, de politique. J'entrais dans la diplomatie à l'avènement de Charles X qui supprima l'emploi que j'occupais sous le feu roi. Dès ce moment, je résolus de ne jamais faire attention à aucune femme si belle, si spirituelle, si aimante qu'elle pût être. Ce parti me réussit à merveille. J'acquis une tranquillité d'esprit incroyable, une grande force pour le travail, et je compris tout ce que ces femmes dissipent de notre vie en croyant nous avoir payés par quelques paroles gracieuses. Mais toutes mes résolutions échouèrent. Vous savez comment et pourquoi. Chère Nathalie, en vous disant ma vie sans réserve et sans artifice, comme je me la dirais à moi-même, en vous racontant des sentiments où vous n'étiez pour rien, peut-être ai-je froissé quelques plis de votre cœur jaloux et délicat. Mais ce qui courroucerait une femme vulgaire sera pour vous, j'en suis sûr, une nouvelle raison de m'aimer. Auprès des âmes souffrantes et malades, les femmes d'élite ont un rôle sublime à jouer, celui de la sœur de charité qui panse les blessures, celui de la mère qui pardonne à l'enfant. Les artistes et les grands poètes ne sont pas seuls à souffrir. Les hommes qui vivent pour leur pays, pour l'avenir des nations, en élargissant le cercle de leurs passions et de leurs pensées, se font souvent une bien cruelle solitude. Ils ont besoin de sentir à leur côté un amour pur et dévoué. Croyez bien qu'ils en comprennent la grandeur et le prix. Demain, je saurai si je me suis trompé en vous aimant. Réponse de Nathalie de Manerville à Monsieur le Comte Félix de Vandenesse. Cher Comte, vous avez reçu de cette pauvre Madame de Mortsauf une lettre qui, dites-vous, ne vous a pas été inutile pour vous conduire dans le monde. Lettre à laquelle vous devez votre haute fortune. Permettez-moi d'achever votre éducation. De grâce, défaites-vous d'une détestable habitude. N'imitez pas les veuves qui parlent toujours de leur premier mari, qui jettent toujours à la face du second les vertus du défunt. Je suis française, cher comte. Je voudrais épouser tout l'homme que j'aimerais et ne saurais en vérité épouser Madame de Mortsauf. Après avoir lu votre récit avec l'attention qu'il mérite, et vous savez quel intérêt je vous porte, il m'a semblé que vous aviez considérablement ennuyé Lady Dudley en lui opposant les perfections de Madame de Mortsauf. Et fait beaucoup de mal à la comtesse en l'accablant des ressources de l'amour anglais. Vous avez manqué de tact envers moi, pauvre créature, qui n'ai d'autre mérite que celui de vous plaire. Vous m'avez donné à entendre que je ne vous aimais ni comme Henriette, ni comme Arabelle. J'avoue mes imperfections. Je les connais. Mais pourquoi me les faire si rudement sentir ? Savez-vous pour qui je suis prise de pitié? Pour la quatrième femme que vous aimerez. Celle-là sera nécessairement forcée de lutter avec trois personnes. Aussi dois-je vous prémunir dans votre intérêt comme dans le sien contre le danger de votre mémoire. Je renonce à la gloire laborieuse de vous aimer. Il faudrait trop de qualités catholiques ou anglicanes et je ne me soucie pas de combattre des fantômes. Les vertus de la Vierge de Clochegourde désespéreraient la femme la plus sûre d'elle-même et votre intrépide amazone décourage les plus hardis désirs de bonheur. Quoi qu'elle fasse, une femme ne pourra jamais espérer pour vous des joies égales à son ambition. ni le cœur ni les sens ne triompheront jamais de vos souvenirs. Vous avez oublié que nous montons souvent à cheval. Je n'ai pas su réchauffer le soleil attiédi par la mort de votre sainte Henriette. Le frisson vous prendrait à côté de moi, mon ami. Car vous serez toujours mon ami. Gardez-vous de recommencer de pareilles confidences qui mettent à nu votre désenchantement, qui découragent l'amour et forcent une femme à douter d'elle-même. L'amour, cher comte, ne vit que de confiance. La femme qui, avant de dire une parole ou de monter à cheval, se demande si une céleste Henriette ne parlait pas mieux, si une écuyère comme Arabelle ne déployait pas plus de grâce, cette femme-là, soyez-en sûre, aura les jambes et la langue tremblantes. Vous m'avez donné le désir de recevoir quelques-uns de vos bouquets enivrants, mais vous n'en composez plus. Il est ainsi une foule de choses que vous n'osez plus faire, de pensées et de jouissances qui ne peuvent plus renaître pour vous. Nulle femme, sachez-le bien, ne voudra coudoyer dans votre cœur la morte que vous y gardez. Vous me priez de vous aimer par charité chrétienne. Je puis faire, je vous l'avoue, une infinité de choses par charité, tout, excepté l'amour. Vous êtes parfois ennuyeux et ennuyé. Vous appelez votre tristesse du nom de mélancolie à la bonne heure. Mais vous êtes insupportable et vous donnez de cruels soucis à celle qui vous aime. J'ai trop souvent rencontré entre nous deux la tombe de la sainte. Je me suis consulté, je me connais et je ne voudrais pas mourir comme elle. Si vous avez fatigué Lady Dudley, qui est une femme extrêmement distinguée, moi qui n'ai pas ses désirs furieux, j'ai peur de me refroidir plus tôt qu'elle encore. Supprimons l'amour entre nous, puisque vous ne pouvez plus en goûter le bonheur qu'avec les mortes. Et restons amis, je le veux. Comment, cher comte ? Vous avez eu pour votre début une adorable femme. Une maîtresse parfaite qui songeait à votre fortune, qui vous a donné la pairie, qui vous aimait avec ivresse, qui ne vous demandait que d'être fidèle, et vous l'avez fait mourir de chagrin. Mais je ne sais rien de plus monstrueux. Parmi les plus ardents et les plus malheureux jeunes gens qui traînent leurs ambitions sur le pavé de Paris, quel est celui qui ne resterait pas sage pendant 10 ans pour obtenir la moitié des faveurs que vous n'avez pas su reconnaître ? Quand on est aimé ainsi, que peut-on demander de plus ? Pauvre femme, elle a bien souffert. Et quand vous avez fait quelques phrases sentimentales, vous vous croyez quitte avec son cercueil. Voilà sans doute le prix qui attend ma tendresse pour vous. Merci, cher comte, je ne veux de rival ni au-delà ni en deçà de la tombe. Quand on a sur la conscience de pareils crimes, au moins ne faut-il pas les dire. Je vous ai fait une imprudente demande. J'étais dans mon rôle de femme, de fille d'Ève. Le vôtre consistait à calculer la portée de votre réponse. Il fallait me tromper. Plus tard, je vous aurai remercié. N'avez-vous donc jamais compris la vertu des hommes à bonne fortune ? Ne sentez-vous pas combien ils sont généreux en nous jurant qu'ils n'ont jamais aimé, qu'ils aiment pour la première fois ? Votre programme est inexécutable. Être à la fois Madame de Mortsauf et Lady Dudley, mais mon ami, n'est-ce pas vouloir réunir l'eau et le feu ? Vous ne connaissez donc pas les femmes ? Elles sont ce qu'elles sont, elles doivent avoir les défauts de leurs qualités. Vous avez rencontré Lady Dudley trop tôt pour pouvoir l'apprécier, et le mal que vous en dites me semble une vengeance de votre vanité blessée. Vous avez compris Madame de Mortsauf trop tard. Vous avez puni l'autre de ne pas être l'une. Que va-t-il m'arriver à moi qui ne suis ni l'une ni l'autre ? Je vous aime assez pour avoir profondément réfléchi à votre avenir, car je vous aime réellement beaucoup. Votre air de chevalier à la triste figure m'a toujours profondément intéressé. Je croyais à la constance des gens mélancoliques. Mais j'ignorais que vous eussiez tué la plus belle et la plus vertueuse des femmes à votre entrée dans le monde. Eh bien, je me suis demandé ce qui vous reste à faire. J'y ai bien songé, je crois, mon ami, qu'il faut vous marier à quelque Madame Sandy, qui ne saura rien de l'amour, ni des passions, qui ne s'inquiétera ni de Lady Dudley, ni de Madame de Mortsauf, très indifférente à ces moments d'ennui que vous appelez mélancolie, pendant lesquels vous êtes amusant comme la pluie, et qui sera pour vous cette excellente sœur de charité que vous demandez. Quant à aimer, à tressaillir d'un mot, à savoir attendre le bonheur, le donner, le recevoir, à ressentir les mille orages de la passion, à épouser les petites vanités d'une femme aimée, mon cher comte, renoncez-y. Vous avez trop bien suivi les conseils que votre bon ange vous a donnés sur les jeunes femmes. Vous les avez si bien évités que vous ne les connaissez point. Madame de Mortsauf a eu raison de vous placer haut du premier coup. Toutes les femmes auraient été contre vous et vous ne seriez arrivé à rien. Il est trop tard maintenant pour commencer vos études, pour apprendre à nous dire ce que nous aimons à entendre, pour être grand à propos, pour adorer nos petitesses quand il nous plaît d'être petites. Nous ne sommes pas si sottes que vous croyez. Quand nous aimons, nous plaçons l'homme de notre choix au-dessus de tout. Ce qui ébranle notre foi dans notre supériorité ébranle notre amour. En nous flattant, vous nous flattez vous-même. Si vous tenez à rester dans le monde, à jouir du commerce des femmes, cachez-leur avec soin tout ce que vous m'avez dit. Elles n'aiment ni à semer les fleurs de leur amour sur des rochers, ni à prodiguer leurs caresses pour panser un cœur malade. Toutes les femmes s'apercevraient de la sécheresse de votre cœur, et vous seriez toujours malheureux. Bien peu d'entre elles seraient assez franches pour vous dire ce que je vous dis et assez bonnes personnes pour vous quitter sans rancune en vous offrant leur amitié, comme le fait aujourd'hui celle qui se dit votre amie dévouée. Nathalie de Manerville. Voilà, nous avons donc terminé pour cette semaine ces quelques extraits du roman de Balzac, Le Lys dans la vallée. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.